Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons commencé l'introduction à la croix. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la croix dans le jardin d'Éden. Lorsque le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux sur ça, je me suis dit, ce n'est pas possible. Évidemment, le sujet, il est partout dans la Bible. Chaque chapitre parle de la croix en plusieurs fois. Donc, rien que dans le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 de Genèse, il est possible de parler de la croix de mille et une façons. Je n'aurai pas le temps matériel pour tout dire. Je vais juste saisir un élément qui va pouvoir ouvrir notre intelligence sur le mystère de Christ au travers de la croix. Voilà, donc nous allons prendre Genèse chapitre 3 à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu y es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Amen. Nous commençons donc notre étude sur la croix dans le jardin d'Éden. Nous avons lu Genèse chapitre 3 à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Avant d'entrer dans le fond, je vous demande juste de prêter un tout petit peu attention au verset 24. « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Amen. Nous entrons là sur un terrain saint. Je vous prie de suspendre, d'interrompre les activités que vous êtes en train de faire. Et si ce n'est vraiment pas possible, écoutez, mais trouvez un moment calme. Quand vous n'avez pas le téléphone qui sonne, vous le mettez en mode avion. Quand vous n'avez pas des gens pour vous déranger, réécoutez ceci, puisqu'il s'agit ici de l'entrée dans une zone sainte. Il s'agit des choses sensibles. Qu'est-ce que l'on nous apprend ici? Après le péché d'Adam, de Ève, le Seigneur Dieu les a chassés de l'Éden et que, à la porte, à l'entrée de l'Éden du côté de l'Orient, le Seigneur Dieu a mis des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Au verset 22, on nous dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main pour prendre de l'arbre de la vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Dieu nous a refusé l'accès à l'arbre de la vie. Dieu serait-il méchant? Non, justement. Lorsque nous lisons toute cette partie, depuis que Dieu a commencé à dire au serpent, à partir de maintenant, il y aura ceci, il y aura cela, c'est l'éternel Dieu qui parle. En d'autres termes, c'est l'amour de Dieu qui parle. C'est Dieu en tant qu'amour, en tant que cœur, en tant que Père qui parle. Et lorsqu'on nous dit ici qu'il les a chassés de l'Éden, vous vous souviendrez que c'est à Gethsémané, dans le jardin, que le Seigneur a pris sur lui nos péchés. Et donc, il y a un lien direct entre le péché d'Adam et le Seigneur Jésus-Christ qui prend la coupe du péché à Gethsémané. Ça se passe de façon directe. Dans le jardin, il y a eu un péché. Dans le jardin, on a ôté le péché. péché. Le Seigneur a ôté le péché. Amen. On commence à voir le lien entre la croix et le jardin d'Éden. On nous dit ici qu'à l'entrée du jardin, il y a des chérubins pour empêcher l'homme de rentrer toucher à l'arbre de la vie, parce qu'il a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque fois que dans notre âme, nous voulons retourner dans une situation qui ressemble à comment nous étions en Éden, sans la conscience du péché en nous, sans les intentions de péché, de faire du mal à autrui, de faire du mal à nous-mêmes, d'offenser notre Dieu. Chaque fois que nous en arrivons à ce désir-là et que nous tournons notre esprit pour trouver comment je vais faire, nous pouvons aller chercher un travail, nous pouvons chercher des gens à aider, donner de l'aumône quelque part, faire des réunions, discuter, arranger. Nous pouvons essayer un million de façons. Mais nous fuyons l'entrée de l'Éden parce que là, se trouve réellement la solution à notre problème, ce pour lequel nous engageons toutes ces démarches autour de nous, nous voyons qu'il y a du feu, que le jour où je veux vraiment résoudre le vrai problème de mon péché, je dois mourir. Et quand nous voyons la mort, nous voyons les chérubins agiter l'épée, nous fuyons. Vous vous souviendrez lorsque le Seigneur Jésus-Christ a approché de la croix, il a dit à ses disciples, bientôt, vous allez m'abandonner, vous allez tous fuir. Ils n'ont pas cru. Mais quand ils ont vu les épées des chérubins à l'entrée de l'Éden, lorsque le Seigneur va à la croix, ils ont tous fui. Pierre, tous, ils ont fui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Seigneur Jésus savait que les ronces, les épines, les douleurs de l'enfantement, tout ce qui est cité ici, qui est lié justement à la croix, les hommes ne sont pas préparés à ça. Et que voilà, comme les fils de Zébédée qui, dont la mère est allée dire à Jésus, lorsque tu prendras ton pouvoir, lorsque tu dois accéder à ton trône, prends avec toi mes deux fils, mets l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus regarde la scène de la croix, il imagine qu'à sa gauche, l'un des fils de Zébédée doit mourir et à sa droite, et que eux, ils doivent mourir aussi pour justement le trône. Il sent qu'ils ne sont pas prêts, il leur dit, femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Ils veulent retourner en Éden. Ils veulent rentrer dans le royaume du Père. Mais il y a un chemin. Et pour le moment, ils ne sont pas prêts. Il y a d'abord que moi, je dois y aller seul. Ensuite, ils seront prêts. Et je pourrai les amener. Alors, le Seigneur dit, pour le moment, ils ne sont pas prêts à boire cette coupe. Certes, ils la boiront, mais pas encore pour le moment. Alors, donc, nous allons maintenant partir verset par verset pour scruter, pour manger, pour dévorer la croix au travers de cette séquence qui commence justement au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, premier élément, c'est que la croix, c'est l'endroit où Dieu s'adresse d'abord au serpent qui a emmené l'homme à la rébellion. Donc, chaque fois que vous serez en face d'une situation où vous avez la révélation de la croix pour le moment, je n'ai pas encore expliqué c'est quoi, mais avec le partage, nous allons finir par comprendre c'est quoi, et à détecter la croix dans la vie de chaque jour, je dis bien dans la vie de chaque jour, puisque dans Luc, le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Donc nous sommes censés voir la croix chaque jour, la prendre chaque jour, et suivre le Seigneur chaque jour. Et vous savez, quelqu'un qui a pris la croix, où est-ce qu'il va? Il va à sa crucifixion. Et donc, nous sommes censés voir chaque jour où le Seigneur veut nous crucifier et aller collaborer avec la crucifixion, puisque c'est là que le serpent sera maudit. C'est à la croix que le serpent est maudit. Et la première parole que Dieu donne pour ce qui concerne la croix ne concerne pas. Ça ne concerne pas vous et moi. Ça concerne d'abord le serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La métaphore est forte. Vraiment, j'aurais voulu beaucoup dire ici. Nous allons vraiment prendre les séquences essentielles. Tu seras maudit et c'est sans appel. Il est maudit une fois pour toutes, il n'en sera jamais guéri. De tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je fais ici un petit clin d'œil. Ce que Dieu a dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Il a dit au serpent qu'il mangera de la poussière chaque jour. Si vous regardez aujourd'hui, notre âme est mangée par les soucis, par les envies, par plein de choses. Vous allez voir que des relations sont rongées entre les états, entre les familles, entre les individus, partout, mais vraiment partout, que notre corps est rongé par des maladies. Bref, vous pouvez vous imaginer dans tous les domaines, le serpent a pris l'homme en proie, l'homme est poussière et le serpent a la nourriture comme poussière. Et nous n'en sommes délivrés qu'à partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ vient nous rendre libres. Ensuite, Dieu poursuit et s'adresse encore au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. L'apôtre Paul nous révèle que la circoncision de la chair, là où on enlevait le prépuce du garçon 8 jours après sa naissance, c'était un symbole. Lorsque Dieu a donné à Abraham la circoncision, il lui a dit « ce sera le signe de mon alliance ». Qu'est-ce que cela veut dire? L'apôtre Paul nous révèle que la vraie circoncision, c'est celle de Christ. Et que, à partir du moment où vous avez reçu Christ, la circoncision de la chair est facultative, elle ne vous sert pas. Mais si vous avez la circoncision de la chair, vous n'avez pas Christ, vous n'avez rien du tout. Parce que c'est en se dépouillant à la croix, dit l'apôtre Paul, que Christ a accompli la circoncision. Donc la vraie circoncision, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ est monté à la croix, qu'il a pris ce corps revêtu de nos péchés, il l'a déposé comme un manteau au cintre et il a donné son esprit à Dieu notre Père. Il a séparé la vie de l'esprit avec la vie de la chair et la chair est partie dans la tombe à cause du poids du péché de l'humanité qu'il portait. L'esprit est monté au ciel parce que le Seigneur Jésus n'avait jamais péché dans son esprit. Et 3 jours plus tard, Dieu a pris cet esprit-là, il l'a renvoyé dans la chair avec autorité, avec domination, avec puissance, avec toute la sainteté du Seigneur Jésus-Christ et est entré dans ce corps à dominer sur le péché, à dominer sur tous les esprits qui ont causé le péché de l'humanité. Et donc, à partir de cet instant, le Seigneur Jésus-Christ a écrasé la tête de Satan, du péché, de la mort, avec toutes les légions de l'enfer, des ténèbres, des démons. Tous, ils ont été livrés publiquement en spectacle. Où ça? À la croix. Donc, le lieu où la circoncision qui sépare le corps de chair, le corps avec ses désirs, ses envies, le corps qui n'obéit pas à Dieu, la chair et le sang, qui est inimitié avec Dieu. On voit encore le mot ici, l'apôtre Paul dit, l'esprit est inimitié avec la chair. C'est à la croix. Si vous voulez aujourd'hui triompher du péché dans votre vie, si vous voulez aujourd'hui triompher de la mort, triompher de la chair et du sang, il n'y a pas d'autre lieu. Il faut la circoncision et cette circoncision se fait à la croix. C'est là que Dieu dit, je vais séparer ceux qui vont sortir de la femme, de ceux qui sont sortis de toi, serpent. Amen. Donc, nous n'avons pas de formule magique pour crucifier la chair. Il n'y a pas de jeûne et prière. Il y a à venir à la croix chaque jour et à laisser là, à la croix, le corps de chair. Comme le Seigneur Jésus a Christ a laissé son corps de chair, à monter avec lui en esprit et à revenir dominer le corps de chair. En mettant le bon ordre, ça veut dire que ce n'est pas la chair et le sang qui dirigent. Dans le même corps, c'est maintenant l'esprit et la vérité qui dirigent. Et quand c'est l'esprit et la vérité qui dirigent le même corps, alors le corps change de fonction. Nous allons voir ça dans les jours qui viennent. Donc, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ça veut dire que ça ne va pas s'arrêter là, sur la surface. Ça va descendre dans tous les domaines, dans toutes les générations, dans tous les aspects de la vie. Celle-ci t'écrasera la tête. Loué soit Dieu, il a mis cette action en premier. Et donc, nous avons la victoire. Certes, à la croix, nous avons mal. On va nous taper, on va nous salir, on va nous injurier, on va nous jeter de la salive, on va nous faire porter une couronne d'épines. Certes, toutes ces choses seront là, mais l'apôtre Paul dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés en premier et qui a donné sa vie pour nous. Il dit à la femme, Dieu est en train de remonter. Vous verrez, Adam a accusé Ève, Ève a accusé le serpent. Dieu a commencé avec le serpent, il a fini avec le serpent. Maintenant, il s'adresse à Ève. Après, maintenant, il va aller finir avec Adam. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Je ne vais pas aller loin. Je vais vous dire simplement ce que ça veut dire. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Vous avez reçu le Seigneur Jésus. Vous avez souffert lorsque vous l'avez reçu. Les jours qui ont suivi à cause du témoignage de Jésus, vous avez souffert. Il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Ça va continuer d'augmenter. Plus vous marcherez dans la foi, plus vous marcherez avec votre croix, plus vous aurez les coups de fouet, les injures, du dénuement. On va vous enlever les habits, on va mettre votre vie à nu, on va parler en vous en bien et en mal, on va vous accuser de ce que vous avez fait, de ce que vous n'avez pas fait. C'est cela, ça ne va faire qu'augmenter. Chers frères et sœurs, ne prenez pas votre âme en mal. Ne dites pas à votre âme, « Ah oui, je viens d'enfanter le premier enfant, c'était dur comme douleur, alors pour l'autre enfant, j'aurai moins mal. » Non, ici, dans les affaires de Dieu, le mal augmente. Plus vous enfantez, plus vous avez des gros enfants qui viennent et plus les douleurs vont augmenter. Regardez l'apôtre Paul au début de sa vie. Ses premières douleurs, ça a été quoi? Il est tombé sur la route de Damas. Il a eu les yeux aveugles. Ben. Et quelques temps après, au moment où on le baptise, une prophétie sort sur lui. Dieu prévient déjà que Paul va souffrir pour son nom. Le mot souffrance vient de ce verset ici. Genèse chapitre 3, verset 16. J'augmenterai la souffrance. Vous connaissez la vie de l'apôtre Paul? Du début jusqu'à la fin, il n'y a eu que souffrance sur souffrance, persécuté. Voilà. Alors donc vous pouvez aller voir dans 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul énumère ce qu'a été les souffrances de sa vie. Nous sommes pressés de toute manière, dans la détresse, persécutés, abandonnés, abattu, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Ainsi la mort agit en nous, alors même que notre être extérieur s'y détruit, car nos légères afflictions du moment présent, voilà. Voilà. Et donc là, vous avez un tout petit peu en résumé l'apôtre Paul qui fait la liste des souffrances auxquelles il a été exposé. Et comme nous savons, il a fini décapité. On a coupé sa tête. C'est pour nous donner une idée claire de ce que nous renvoie ce verset. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Vous montrerez la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Cela semble une mauvaise nouvelle pour les femmes. Mais nous savons que pour nous, le mari, l'époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, l'Éternel Dieu, en disant ici que tes désirs seront tournés vers ton mari, était en train de nous donner la voie du salut. Puisque maintenant, nous avons nos désirs qui sont tournés vers Christ pour l'aimer, pour le connaître, pour l'adorer, pour apprendre de lui, pour vivre avec lui. Mais il dominera sur toi. Or, le Seigneur Jésus-Christ vient avec la domination éternelle. Et donc, s'il domine sur nous, nous retrouvons la vie éternelle que nous avions perdue. Dit Amen. Il dit à l'homme, béni soit Dieu de ce qu'il n'a pas dit ici, il dit à Adam. Non, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné l'ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu retireras ta nourriture. Tu en retireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Allons-y droit. cette parole s'adresse à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, c'est l'Église qui pleurait, qui va nous sauver. L'Apocalypse, qui va nous sauver, dit Jean. Et Christ a entendu le cri. Et il s'est levé, il a dit, Père, je veux faire ta volonté. Et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce sujet. C'est toi dont tu n'en mangeras point. Le Seigneur Jésus-Christ a Gethsémani. Lorsqu'il a pris la coupe que le Père lui a donnée, il a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Adam avait pris en lui, en obéissant à Satan. Le Seigneur Jésus-Christ a pris le péché qui est sorti de cette désobéissance d'Adam. Il a pris la mort, puisque le salaire du péché c'est la mort, et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a pris la mort, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix, il est mort. C'est parce qu'il a pris ça pour sauver la femme, pour sauver l'Église. Et à partir de ce moment, son corps qui avait été saint, son corps qui n'avait jamais péché, s'est vu prendre le péché. Lui qui n'avait pas péché. Et à partir de là, nous sommes devenus sa nourriture. Amen. C'est en nous que le Seigneur Jésus-Christ vient prendre maintenant plaisir. Tous les jours de sa vie, il vient résider dans notre cœur. C'est pour ça que le Fils de l'homme n'a pas sur la terre un endroit où dormir. C'est parce que son endroit, c'est dans nos cœurs. Et il te produira des épines. Vous vous souvenez la couronne d'épines que l'on a mis sur la tête du Seigneur Jésus-Christ et des ronces, les coups de fouet qu'il a reçus sur lui? Oui, en réalité, du moment qu'il est venu habiter dans nos cœurs, c'est notre comportement chaque jour. Même pas nos comportements, nos paroles. Non, même pas seulement nos paroles. Nos pensées qui cohabitent avec lui là à l'intérieur de notre cœur, qui sont en combat permanent avec sa nature qui est complètement différente, qui représente pour le Seigneur Jésus-Christ des ronces, des épines, de l'herbe de champ, de la souffrance que nous l'infligeons. Mais il a déjà pris ça. Il avait déjà subi ses coups. À Gethsémané, il avait déjà tout pris. À Golgotha, il avait tout pris. Et quand il a dit tout était accompli, ça veut dire qu'il n'y a aucune mauvaise pensée qui va traverser votre cerveau que le Seigneur ne connaît pas, qui va lui faire souffrir telle que cette souffrance va être dépassée. Il a déjà pris la mesure de souffrance pour que aujourd'hui il habite dans le cœur, il est capable de gérer et de dominer ses pensées. Dites Amen. Il est capable de dominer nos mauvaises paroles. Il est capable de dominer sur nos mauvais actes. En réalité, quand Dieu disait ici à la femme que l'homme va dominer sur toi, il était en train de céder le pouvoir à Christ pour que Christ, en entrant dans nos cœurs, domine le péché, domine notre nature, domine... Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à l'œuvre de Christ? C'est pourquoi il habite avec nous. Il est à l'aise. La couronne de gloire pour lui, c'est qu'il a... Il n'est pas roi de tout ce qui est juste parfait. Il est roi aussi de ceux qui sont imparfaits. Et dans ses badges à lui, vous savez, quand vous devenez roi, on vous met des symboles honorifiques, des fleurs de lys, des barrettes, des trucs en or, des décorations diverses qui symbolisent ta royauté. Dans la royauté du Seigneur, il a toutes ces choses. Des pierres de jaspe, il a toutes sortes de pierres précieuses sur son vêtement. Mais en plus de cela, il a les trous dans les mains, il a la couronne d'épines, il a le sang, il a la gloire d'avoir sauvé des pécheurs. Et chaque fois qu'il a sauvé l'un de nous, il a arraché une épine qui nous était destinée, il a pris sur lui. Il a arraché un cou qui nous était destiné, il a pris sur lui. Il a pris un sang qui devait sortir de nous, il a troué et un sang est sorti de lui. Et quand il dit « J'ai vaincu », il montre tout ce qu'il a gagné en tant que victorieux des pécheurs. Je ne sais pas si vous arrivez à voir cette image dans Kung Fu Panda, mais il y a beaucoup de cinémas semblables où il y a des bourreaux comme ça qui tuent des gens et ils prennent les cerveaux ou des reliques ou des objets de celui qu'il a combattu pour dire qu'il a été plus puissant que lui. Et donc, il le met sur lui pour dire, voilà, j'ai été plus puissant, donc sa capacité à lui, je l'ai maintenant en moi. J'ai développé ma capacité jusqu'à dépasser sa capacité. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, en dépassant tout le péché humain qu'il avait avalé à Gethsémané, en allant avec à la croix, sans que lui, à son tour, ne soit conduit par le péché, puisqu'au moment où il devait ressortir de la haine, de la rancœur, du ressentiment, à cause de tout ce mal, il a dit, je domine encore, je mets l'amour, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon Dieu, quel degré de domination, quel degré. Et aujourd'hui, dans ses écussons, dans les badges qu'il met sur son habit, dans les symboles, les reliques de sa royauté, il ajoute ces choses-là pour dire, il est aussi roi de ceux qui ont péché et qu'il a ramené justement à sa grâce dans son royaume. Amen. Et donc, tout ce qui suit, a un lien direct avec la croix. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Alors là, maintenant, ça commence à nous concerner. Le Seigneur Jésus-Christ est retourné dans la terre. Et à partir de là, il a été ressuscité. Et il nous dit, celui qui veut venir après moi, pour connaître la résurrection, il faut qu'il retourne dans la poussière. En fait, quand Dieu disait à Adam ici de rentrer dans la poussière, ce n'est pas une condamnation puisque c'est l'éternel Dieu qui parle et Dieu fait un acte d'amour. Vous vous souviendrez dans Genèse chapitre 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il forma l'homme. Maintenant, l'homme a péché. Et donc, j'ai un problème avec cet homme. Ce n'est pas celui que j'avais tiré de la poussière de la terre. Alors, si je veux le recréer sans péché, qu'est-ce que je fais? Ben, je le remets dans la poussière. Puisqu'à partir du moment où je vais le remettre, je vais séparer le péché avec lui. Et une fois que j'aurai l'homme sans la poussière, sans péché, je vais recréer mon homme. Donc, ce que Dieu a dit à Adam ici, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, c'est parce que c'est là le lieu du rendez-vous. Vous vous souvenez? La croix, c'est le lieu du rendez-vous. Donc, notre rendez-vous avec Dieu pour re-être créé, re-être formé, semblable à son image, comme il était au commencement, je lis chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, ça veut dire le Saint-Esprit, l'homme devint une âme vivante. De la même façon, aujourd'hui que nous avons péché, nous avons connu la mort, Dieu veut que nous soyons des âmes vivantes, Dieu dit, retourne dans la poussière. Et quel est le chemin pour retourner dans la poussière, Seigneur Jésus-Christ? Prends ta croix, suis-moi, Seigneur, tu vas où? Je vais à Golgotha. Mais Seigneur, là-bas, c'est la mort. Oui, c'est là-bas la mort. Après la mort, l'âme s'évanouit. Le tombeau, la poussière. Une fois que tu es dans la poussière, Satan est détaché de toi. Le mal, le péché est détaché de toi. La circoncision est faite. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit peut maintenant souffler dans cette poussière et nous devenons une âme vivante. C'est pourquoi avant que le Saint-Esprit vienne à la Pentecôte, il fallait d'abord que le Seigneur Jésus meure pour qu'il puisse justement séparer. Et une fois que la circoncision a été accomplie, maintenant le Saint-Esprit peut venir. Dieu peut ressouffler dans les hommes un souffle de vie et nous pouvons redevenir des âmes vivantes. Car si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'esprit rendra la vie à vos corps mortels. L'esprit va vous vivifier et vous ne pouvez plus pécher. Romains chapitre 8. Amen. Allez fouiller, vous allez retrouver le verset. Je ne l'ai pas par cœur. Béni soit Dieu notre Père pour cette révélation de la croix. La croix était instituée le jour où Adam et Ève ont péché. Dieu avait déjà raconté tout ce qui allait se passer à Gethsémané. Et le Seigneur Jésus est venu à Gethsémané. Il a accompli cette parole. Il a pris sur lui nos péchés. Il est mort pour nous. Il a été circoncis pour nous. Et si nous acceptons sa mort comme notre circoncision, à partir du moment où nous pouvons demander le Saint-Esprit librement et savoir que l'histoire est faite, nous avons péché. Mais le salut est venu réécrire l'histoire. il est mort pour nous. Il a été séparé à cause de nous, de Dieu. Et il a été ressuscité par le Saint-Esprit pour nous. Et maintenant, il nous donne le même esprit. Puisque Dieu lui a dit de dominer. Dieu nous a dit que nos désirs seront portés sur lui et qu'il dominera sur nous. Alors, Seigneur, nous te prions que ta domination vienne. Que ta domination vienne. Que ton règne vienne. Viens régner en nous. Nos désirs sont tournés vers toi. Et où te rencontrer, notre époux? À la croix. C'est là que nous rencontrons Dieu. C'est là que le serpent meurt. C'est là que le péché, la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal prend fin. C'est là que les chérubins ferment la porte pour qu'on n'entre pas. Mais Christ, la porte lui est grandement ouverte. Il dit, venez, entrez par ici. Je suis la porte des brebis. Il nous fait rentrer en Éden. Il nous fait rentrer dans le jardin. Et nous sommes à nouveau dans la présence de Dieu. Nous pouvons à nouveau toucher l'arbre de la vie, qui est Christ lui-même. Et donc la croix, c'est aussi là où se trouve l'arbre de la vie. Amen. Alors vous savez maintenant où rencontrer Dieu. Vous savez maintenant où rencontrer Dieu. C'est à la croix. Là, nous rentrons en Éden. Nous pouvons le revoir face à face. David dit, je prie et je désire une chose ardemment. Je demande à Dieu une chose que je désire ardemment. C'est de demeurer, d'habiter dans la maison de l'Éternel. Où est-ce que Dieu habite? En Éden. Où est-ce que Dieu habite? En Christ. Dans Colossiens, on nous dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Dans sa personne. Et comment entrer en Christ? Ben, c'est par la croix. C'est par la croix que nous entrons à Christ. Parce que si nous sommes morts avec lui, alors nous sommes ressuscités avec lui, alors nous sommes élevés avec lui, alors nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, en Christ. Dites Amen. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour parler de la croix dans l'affaire Jonas. À bientôt. En attendant, écrivez, posez des questions, partagez des témoignages, inbox ou dans le groupe, laissez des commentaires. Si c'est sur YouTube que vous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Amen.